Bonjour petits amis, bonjour. Comme vous sans doute, j'aime beaucoup les contes de fées et j'adore Cendrillon. Tout d'abord parce que les contes de fées ne vieillissent jamais. Et ensuite parce que Walt Disney, pour l'illustrer, a créé une foule de personnages nouveaux, tout exprès pour aimer et entourer Cendrillon. Qui ? Eh bien en particulier deux souriceaux, Jacques et Gus, qui sont les créatures les plus cocasses que vous puissiez imaginer. Et aussi Lucifer, le matou le plus hypocrite, et Pato, le chien le plus candide. Et
qui encore ?
Je vois que j'ai piqué votre curiosité. Écoutez-moi bien, car je commence à vous raconter Cendrillon. Il était une fois une jeune fille exquise, tendre et bonne, mais qui était hélas orpheline. Oui, sa maman était morte quand elle était toute petite. Son papa se remaria, mais avec une femme dure, autoritaire et cupide, qui devint sa belle-mère. Pour la petite fille, cette femme méchante fut une marâtre. Le papa de Cendrillon mourut en effet à son tour, et la petite fille fut élevée par cette femme qui la traita aussitôt comme une servante, une souillon, vêtue de guenilles, chargée des travaux les plus difficiles. Comme elle devait balayer les cendres des cheminées, matin et soir, elle fut surnommée Cendrillon. Son malheur était complet, car sa marâtre avait deux filles de son âge, deux affreuses chipies, nommées Javotte et Anastasie. Elles étaient laides, bêtes et méchantes. C'était deux jojottes, comme on dit aujourd'hui. Leur jalousie envers Cendrillon était telle qu'elle l'accablait de travail, de reproches et de moqueries. Cendrillon restait d'humeur égale et acceptait les travaux les plus durs. De plus, elle leur servait de femme de chambre, les coiffant, les habillant, lavant et repassant leurs robes, obéissant à tous leurs caprices. Très tard, le soir, Cendrillon pouvait enfin se reposer dans sa mansarde jusqu'à l'aube. Couchée la dernière, elle était toujours la première levée. Pour l'instant, Cendrillon dort dans sa mansarde, tout en haut d'une tour délabrée. On ne lui a pas donné une vraie chambre dans cette maison qui fut pourtant celle de ses parents. Deux oiseaux tirent les rideaux et le soleil s'étale sur le gros édredon. Cendrillon s'étire doucement.
Bonjour! Bonjour Cendrillon! Réveille-toi, il fait si beau!
Oh, je faisais un rêve merveilleux. Oui, il fait beau.
Allons.
Oh, d'accord. Je vais me lever, c'est promis.
Raconte-nous ton rêve, petite fille.
Oh, non, mais d'où ? Pas question. Il ne faut jamais raconter ses rêves, sinon ils ne se réalisent pas. Et moi, ce rêve merveilleux, j'ai follement envie qu'il se réalise.
Cendrillon s'est levé. Une foule de souris s'occupe du ménage et de la toilette de Cendrillon. À plusieurs, elles parviennent à vider un broc d'eau dans la cuvette et hop ! Deux oisillons improvisent une douche pour Cendrillon avec une grosse éponge trempée au-dessus de sa tête. C'est fou ce que l'on peut faire avec un bec et deux ailes. Mais déjà une horloge sonne l'heure du travail.
Je déteste cette vieille radoteuse. C'est déjà l'heure de vous quitter, mes petits.
Soudain, Jacques, le sourisseau le plus intelligent, le plus dégourdi du peuple souris, s'accroche à la jupe de la jeune fille. Il est énervé comme une portée de souris. Et comme d'habitude, il mélange sa langue maternelle avec celle des humains.
Zut, zut, vite, vite, il est arrivé un malheur en bas. C'est terrible, le pied, zut, zut, le pied. C'est Lucifer, le trou.
Explique-toi, Jacques. Je ne comprends rien. Le pied... Que veux-tu me dire ?
Le piège ! La souricière ! Il y a quelqu'un dedans !
Une souris prisonnière ! Vite ! Vite, allons la délivrer.
Zut, c'est fou ça. C'est ce que je me tue à te dire.
Cendrillon et Jacques dévalent l'escalier jusqu'à la cuisine. Dans la souricière, un souris au rondouillard est terrorisé, tremble de peur.
Zut, zut, mon gars, voici les renforts. On va te sortir de là. Plus rien à craindre. Zut, zut.
N'aie pas peur, petit. Tu vas retrouver la liberté.
Ouais, la liberté. Zut, zut, on l'adopte, hein. On l'adopte. Mais comment va-t-on l'appeler?
J'ai bien envie de l'appeler Gustave. C'est joli, Gustave, n'est-ce pas?
Oh oui, zut. Mais trop long à prononcer. Eureka. Appelons-le Gus. Ça suffit, hein. Alors, Gus, comment va la vie? On n'a plus froid aux moustaches?
Zut, zut. Ah, Gus va beaucoup mieux, hein. Ah, les moustaches et tout. Et Gus peut se dérouiller les pattes. Gus a horreur de cette ignoble cage.
Gus délivré et adopté, Cendrillon, comme chaque matin, vaque à ses occupations. Elle pénètre d'abord dans la grande chambre violette pour réveiller Lucifer, le chat de la maison. Il ronfle bruyamment. Il est gros et gras, avec un regard vert et sournois. Lucifer consent à la suivre jusqu'à la cuisine, où il trempe une griffe négligente dans un bol de lait. Il susote sa patte dédaigneusement. Non loin de là, Pato, un vieux chien pacifique, rêve qu'il attrape enfin Lucifer. Et c'est un cauchemar. Mais déjà, quelqu'un s'est réveillé dans la maison et commande impérieusement son petit déjeuner. Une deuxième clochette, puis une troisième clochette sont furieusement secouées. Et Cendrillon porte trois plateaux dans les chambres.
Bonjour, Javotte.
C'est pas trop tôt. Et tu n'oublieras pas de repasser ce tas de linge.
Bonjour, Anastasie.
Ah, quand même. Je suis sûre que mon chocolat est froid. Et tu as du raccommodage en retard.
Soudain, un hurlement d'épouvante. Anastasie a découvert Gus sous sa tasse. Il s'est réfugié là pour échapper à la griffe de Lucifer.
Méchante! Tu l'as fait exprès! Tu veux me faire mourir de peur! Tu sais que je déteste les souris!
Bonjour, mère.
Tais-toi. Alors, on fait des niches au lieu de travailler? Tu es punie, vilaine fille. Mets-toi à l'ouvrage immédiatement. Tu laveras les carreaux de toutes les fenêtres, tu ratisseras le jardin, nettoieras la terrasse et ramèneras les cheminées. Toutes les cheminées. Et ne traîne pas.
Oui, mère.
Et ne discute pas.
Tandis que Cendrillon exécute ses tâches, si nombreuses et si difficiles pour une jeune fille aussi frêle, le roi du pays discute avec son majordome dans la grande salle du palais royal. C'est un bon vieux roi, aux cheveux blancs, qui pour le moment a la moustache en bataille. Il ne crie pas, il vocifère.
Je suis patient, mais je n'ai plus la patience d'être patient. Ah, le prince doit se marier.
Mais, ma majesté...
Mais il n'y a pas de mais. Je veux des petits-enfants qui galopent dans le palais. J'exige des rires, des blagues, des jeux. Je m'ennuie tout seul.
Mais sire...
Il n'y a pas de mais, sire. Ah, parmi royal moustache, je vous ordonne de ne plus m'interrompre.
D'accord, majesté, je ne permettrai jamais de dire à notre sire... À ma majesté...
Assez. Oh, je sens que je vais m'énerver. Je vous prie donc courtoisement d'organiser un bal. Un bal! Le plus grand bal jamais donné au palais. Et pas dans un mois, hein, pas dans une semaine, pas dans un jour. Ce soir. Et qu'il rassemble toutes les jeunes filles à marier du royaume.
Bal, ce soir, pourquoi?
Parce que j'exige que le prince choisisse une épouse. Et me donne toute une lignée de petits-enfants pour jouer avec. Voilà, c'est clair, ça, c'est simple.
Le prince ne paraît pas pressé de tomber amoureux, ma majesté.
Pas pressé. Mais tu veux dire qu'il ne pense qu'à ça? C'est décidé. Depuis 7 minutes, il ne pense qu'à ça. Et je suis patient. J'attendrai les fiançailles jusqu'à ce soir.
Dans la maison de Cendrillon, Javotte et Anastasie prennent leurs leçons de chant. Leur mère les accompagne au piano. Mais on ne peut pas dire que Javotte et Anastasie connaissent la musique. Écoutez-les. Cendrillon, elle, est en train de brosser le tapis du couloir, tout près du salon de musique. Malgré elle, Elle chantonne la chanson des deux pains bêches. Et sa voix résonne comme un cristal. Soudain, la musique est interrompue par la cloche du portail. Un messager apporte la fameuse invitation royale. Elle est écrite sur un somptueux parchemin et s'achève par ces mots. Par ordre du roi, toute jeune fille en âge de se marier devra assister au bal. L'une d'entre elles deviendra obligatoirement l'épouse du prince. Javotte et Anastasie, ayant lu le message, s'exclament en chœur. « C'est moi, c'est moi !» Mais Cendrillon, qui était allé ouvrir la porte au messager, ajoute timidement. « C'est peut-être moi ? J'ai l'âge et le droit aussi d'assister à ce bal. » Pauvre Cendrillon. Elle avait raison, bien sûr. Elle pouvait prétendre à ce titre de princesse. Hélas, elle parla trop vite. Et sa marâtre répondit hypocritement.
« Certainement, Cendrillon. Si tu as terminé ton travail, je ne peux m'y opposer. »«
Maman !»«
Voyons, maman !»«
Mais songe aussi qu'il te faudra une robe présentable. On n'entre pas au palais royal comme une pauvresse. Je veux dire, une indigente. Bref, tu dois être habillée somptueusement. Tu vois ce que je veux dire, Cendrillon. »«
Je porterai la robe de ma chère maman. » Elle était si belle quand elle la mettait pour aller danser avec mon père.
Jacques et Gus, cachés dans un trou, n'ont pas perdu une miette de cette conversation.
Zut, zut, c'est sûr, jamais Cendrillon n'ira au bal ce soir.
Et pourquoi donc? C'est la plus jolie jeune fille que j'ai jamais vue. Et ce soir, elle se fiance au prince.
Zut, zut, innocent, candide. Tu n'as pas remarqué la perfidie de sa marâtre. On n'entre pas au palais royal comme une pauvresse. Et... tu vois ce que je veux dire, Cendrillon? Oh, la méchante femme! Cendrillon n'aura jamais le temps de raccommoder sa robe!
Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Aider Cendrillon?
Lui offrir une robe à la dernière mode!
Vite, au travail! En nous dépêchant, avec l'aide des oiseaux, nous réussirons à arranger sa robe!
Zut, zut! Courage, les souris! Ce sera une formidable surprise!
Oui, oui!
Organisez-vous!
Oh oui!
Quant à toi, Gus, suis-moi!
Oui!
Allons surveiller les préparatifs des deux chochottes et rire de leurs grimaces.
Jacques et Gus lorgnent Javotte et Anastasie qui piaillent dans leur chambre.
Je n'ai rien à me mettre. Regarde-moi cette ceinture stupide. Je n'en veux plus, je la jette.
Oh, et moi, ce collier, je le hais. Je le jette aussi.
Et tandis que Jacques et Gus récupèrent la ceinture et le collier sous le museau de Lucifer... le peuple souris transforme la mansarde de Cendrillon en atelier de couture. Un ingénieux système de poulies permet aux petites pattes de hisser les bobines de fil, les rubans, les dentelles pour confectionner la robe de bal sur le mannequin. Les sourisettes sont très énervées et très gaies. Et comme dans tout atelier de couture, elle chante à tue-tête.
Oh, oh, la merveilleuse surprise! Quelle est belle! Quelle splendeur! Oh, merci, merci, mes toutes petites. Merci, merci, mes amis. Les deux poseuses se trémoussent avec des tas de chichis. Mais Cendrillon paraît. Elle est adorable.
Folles de jalousie, les deux sœurs se jettent sur elle en glapissant.
Voleuse! Ma ceinture neuve, rends-la-moi!
Voleuse! Mon collier préféré! Comme l'as-tu chipé? Rends-le-moi, voleuse!
Oh, laissez-moi! C'est faux! Je ne vous ai rien pris! Menteuse!
Calmez-vous, voyons, calmez-vous! Oh, Cendrillon, je suis navrée. Ta robe est en lambeaux, tu ne peux nous accompagner dans cet état. Quel dommage!
Oui, c'est dommage.
Enlève ces loques et avance ton ouvrage pour demain. Bonsoir, Cendrillon.
Cendrillon, désespérée, voit Javotte et Anastasie grimper dans la calèche et partir pour le bal. Le chagrin l'envahit. Elle éclate en sanglots et se sauve dans le jardin. Les oiseaux tentent de la distraire, en vain. Jacques, Gus et toutes les souris couturières qui ont tant travaillé pour qu'elle aille au bal sont navrées. Même Pâteau et jusqu'au vieux cheval de la ferme tentent de la consoler. Mais rien ne peut apaiser ce chagrin. Soudain, dans un halo de poussière d'étoiles, une fée apparaît. C'est la marraine de Cendrillon. Mais elle n'a pas l'allure d'une fée comme dans les contes. Elle porte une cape de grosse laine et ressemble plutôt à une nounou, avec un visage tout rond et tout souriant.
Ne pleure plus, Cendrillon, je suis venue, je suis là. Tu iras au bal, ma chérie. Il suffit que je retrouve ma baguette magique. Ah, où donc l'ai-je garée?
Oh, je crois vous reconnaître. Vous ne pouvez être que ma marraine, la bonne fée.
C'est exact, ma chérie. Mais qu'est-ce que j'ai donc bien pu faire de cette baguette? Ah, la voici. Rangée dans ma manche. Mais l'important, c'est de ne pas oublier la formule magique, n'est-ce pas?
Salagadou, la manchikapou, la bibidi-pobidi-bou. L'important, c'est la façon de le dire, bibidi-pobidi-bou. Salagadou, la manchikapou, la bibidi-pobidi-bou. C'est de la magie malgré tous vos sourires, bibidi-bobidi-bou. Salagadou veut dire magicabou les roues. Mais la chose qui fait marcher ce truc-là, c'est bibidi-bobidi-bou. Salagadou, la magicabou, la bibidi-bobidi-bou. L'important c'est la façon de le dire, bibidi-bobidi-bou.
La bonne fée avise alors une grosse citrouille qui pousse dans le potager. Ravie, elle pointe sa baguette magique et prononçant la formule magique, la citrouille se transforme en carrosse d'or, incrustée de pierres précieuses.
Oh, dis donc, d'un coup de baguette magique, elle a changé une grosse citrouille en carrosse et t'as vu ça? Zuc, zuc!
Mais ce merveilleux carrosse restait immobile. Il aurait fallu des chevaux pour le tirer et un cocher pour les conduire.
Oh, il manque encore un cocher et un laquais pour ouvrir la portière. Approche un peu, toi. Tu as l'air d'un bon vieux cheval. Tu as dû en tirer des charrues et des charrettes. Que dirais-tu d'être pour une fois un cocher, hein?
Salagadou, la magicabou, la bibidi-bou-bidi-bou.
Là, tu es parfait.
Sous les yeux émerveillés de Cendrillon, la baguette de sa bonne marraine transforme le cheval en cocher, portant une livrée impeccable.
Zut, zut, elle a changé Pâteau en laquais. Ouah, zut, zut.
Il manque encore quelque chose. Mais quoi? Oh, suis-je étourdie? Il faut des chevaux pour tirer ce carrosse.
Hé, hey, Zuc, on se pousse au premier rang pour être cheval?
Cheval? T'es pas fou? On pourra jamais.
Alors les souris.
ruisseau. Vous êtes volontaire. Je cherche 4 chevaux blancs, fringants, superbes.
Yipipi,
salut les copains. Salagadou, la magicabou, la bibidi-bou-bidi-bou.
Chérie, comment les trouves-tu?
Magnifique. Mais, ma reine, je ne peux pas aller au bal avec cette robe toute déchirée.
J'ai autant de cervelle qu'un étourneau. Voici, ma petite princesse, une robe de reine. Sans oublier les pantoufles de verre pour danser avec le prince jusqu'à minuit.
Cendrillon, dans un tourbillon d'étoiles, se retrouve vêtue de la plus belle robe de bal que l'on puisse imaginer, scintillante sous la lune. Elle porte aux pieds une paire de minuscules pantoufles de verre filé, plus brillantes que le diamant. Cendrillon, ébloui, écoute à peine sa bonne fée, la marraine, qui lui explique quand et comment le charme cessera.
À minuit, oui, ma reine. L'enchantement cesse.
Écoute bien, ma douce. Je t'en prie, sois très attentive. Tu dois quitter le bal avant minuit, même si tu t'amuses follement. Car au 12e coup de minuit, le charme sera tout à fait rompu. Et tu sais ce qui arrivera, petite fille, si tu n'es pas revenue à la maison à ce moment précis? Eh bien, je vais te le dire. Au 12e coup de minuit, tu te retrouveras en haillon avec des souriceaux, un brave chien et un bon vieux cheval près d'une grosse citrouille. Alors n'oublie pas, ma chérie, à minuit sonnant, tu dois être revenue ici. Mais n'aie pas peur, jusqu'à minuit, tu seras certainement la plus jolie jeune fille à marier que le prince ait jamais rencontrée.
Oui, ma reine, c'est promis. Mais comment vous remercier?
Sauve-toi vite, je bavarde et je te retarde. Il n'y a plus un instant à perdre, ma belle. Va vite, va danser.
Les chevaux blancs emportent au quadruple galop le carrosse d'or de Cendrillon qui traverse les villages endormis. Au détour de la route, le palais royal apparaît soudain dans le lointain. Il brille dans la nuit comme un palais de cristal. Le cocher lance les chevaux et le carrosse arrive au pied de l'escalier monumental qui conduit à la salle de bal. Tandis que Cendrillon monte allègrement l'escalier, la fête bat son plein à l'intérieur du palais. Les jeunes filles à marier du royaume sont présentes. Personne ne danse encore, car le roi vient juste de gagner sa loge. Les musiciens accordent leurs instruments. Le prince, enfin, paraît. Il est jeune, il est très beau. Il a l'air un peu boudeur. Hélas, on lui présente d'abord Javotte et Anastasie.
C'est mauvais signe, ça. Le prince a levé les yeux au ciel.
Je vous avais prévenu, le prince est très difficile.
Difficile? Dans le cas de ces deux filles, il est parfaitement sain d'esprit. J'en aurais fait autant. Elles sont vraiment décourageantes.
Javotte et Anastasie, après avoir salué le jeune prince d'une révérence fort maladroite, regagnent leur place dans la salle de bal. Le prince, tout à coup, semble frappé de stupeur, puis de ravissement. Il a aperçu une jeune fille qui semble égarée dans le palais et qui n'ose entrer dans la salle de bal. Comme un somnambule, le prince traverse l'immense espace qui le sépare encore de Cendrillon. Il s'incline devant elle. Il lui parle.
Mademoiselle, voulez-vous m'accorder cette danse ?
L'assemblée pétrifiée assiste à cette scène. Le vieux roi, à qui rien n'échappe, jubile. Il gronde son majordome, qui distraitement regarde d'un autre côté.
Idiot ! Mettez donc votre monocle ! Le prince a raison d'être difficile, espèce de daim. Oh, admirez donc cette petite merveille qu'il est en train d'inviter. Oh, elle est adorable. Oh. Mais par mille millions de musiciens manchots, la valse ! Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Jouez donc la valse !
Pousse-toi donc, je n'y vois rien.
Et qui c'est ? Qui c'est ? Personne ne la connaît.
Elle me rappelle vaguement une personne. Une personne que je connais. Par l'enfer.
C'est parfait, j'en ai assez vu. Mon fils n'est pas un idiot. Elle est absolument divine. Demain matin, mon cher, nous fixerons la cérémonie du mariage. À demain, très cher.
Bonne nuit, Majesté. Comptez sur moi.
Mais j'y compte. Bonne nuit.
Le roi s'est retiré dans sa chambre pour y dormir du sommeil du juste. Il aime déjà comme sa fille, cette exquise inconnue qui se promène dans le grand parc au bras de son fils. Le ciel semble tendu d'un voile bleu piqué de diamants. L'air est plus doux qu'un zéphyr. Le prince et Cendrillon valsent sous les grands arbres, près des fontaines illuminées par la lune. Mais soudain, l'horloge du donjon égrène les 12 coups de minuit. Cendrillon, qui vit dans un rêve, a-t-elle oublié les recommandations de sa marraine ? Affolée, Cendrillon reprend ses esprits. Elle s'arrache au bras du jeune homme, sans même réaliser que c'est le prince. Car souvenez-vous, elle ne lui a pas été présentée.
Ciel ! Il va être minuit, déjà ! Il me faut fuir, vite !
Attendez ! Non ! Ne partez pas déjà ! Je vous en supplie ! Je vous aime !
Mais Cendrillon ne l'écoute pas. Bouleversée, elle dévale l'escalier monumental, poursuivie par le majordome qui la supplie lui aussi de ne pas partir. Elle trébuche et perd une pantoufle de verre. En bas de l'escalier, le carrosse l'attend, elle s'engouffre à l'intérieur et le cocher lance ses chevaux. Le majordome a ramassé la pantoufle perdue. Il appelle la garde royale.
Garde ! Rattrapez ce carrosse, garde !
Les gardes, montés sur leur coursier noir, se lancent à la poursuite du carrosse. Mais les quatre chevaux blancs sont magiques et plus rapides que le vent. Impossible de les battre à la course. Et, au 12e coup de minuit, Cendrillon se retrouve dans le jardin de sa maison. Le carrosse d'or redevient une citrouille. Les quatre chevaux blancs se métamorphosent en souriceaux étonnés. Le cocher se transforme en cheval. Le laquais perd sa livrée et retrouve la forme de Pâteau. Cendrillon est à nouveau vêtu de haillons, mais sa marraine lui a laissé sa pantoufle de verre. Est-ce encore un oubli ? Une preuve de tendresse ? L'histoire ne le dit pas. Le charme s'est rompu à minuit, mais la pantoufle de verre est là, scintillante. Et Cendrillon l'emporte dans sa chambre. La jeune fille s'endort en souriant. Non, elle n'a pas rêvé. Le jeune homme, l'élu de son cœur, existe. Et Cendrillon se réveille heureuse, heureuse, heureuse. Mais au palais royal, le majordome, qui n'a pas fermé l'œil de la nuit, se ronge les ongles en proie à l'inquiétude. Il craint d'avouer la vérité au vieux roi.
Comment annoncer la nouvelle au roi ? Je l'entends déjà. J'ai rêvé de mes petits-enfants.
Nuit exquise. J'ai rêvé de mes petits-enfants. Alors c'est pour quand ce mariage ? Ce soir ? Bravo ! Mon cher, je vous nomme grand chancelier. Et je vous nomme duc. Voilà. Duc de quoi au juste ? Bénédicte, dites parler.
Elle est partie.
Duc de Liberty, bon, c'est parfait. C'est un drôle de nom, mais ça vous regarde.
Ma majesté, elle est partie.
Ah oui? Et qui donc?
La jeune fille d'hier soir, c'est celle qui dansait avec le prince.
Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous l'avez laissée partir? Demeurez rustre, stupide.
Elle a perdu une pantoufle de verre que j'ai ramassée.
Crétin, débile. Vous avez sa pantoufle? C'est vrai?
La pantoufle est minuscule, sire. Oh, il ne doit exister qu'une seule jeune fille dans le royaume pouvant y glisser son pied menu.
Sublime! Bravissimo! Vous allez parcourir le royaume à sa recherche. Je vais faire une proclamation royale. Toute jeune fille ayant assisté au bal devra essayer cette pantoufle de verre. Ce sera un jeu d'enfant de retrouver sa propriétaire.
Un jeu d'enfant? Tout le royaume.
Oui,
sire, j'obéis.
Un messager apporte la proclamation royale dans la demeure de Cendrillon. Sa marâtre, ayant reconnu Cendrillon au palais royal, grimpe jusqu'à sa mansarde et, crac, elle donne un tour de clé. Cendrillon est enfermée, prisonnière. Heureusement, Jacques et Gus ont tout vu.
Zut, il faut récupérer cette clé. Coûte que coûte, à nous la clé!
Jacques et Gus, à toutes pattes, dévalent des escaliers et des passages secrets connus d'eux seuls. Une certitude, la clé est dans la poche droite de la marâtre.
En conséquence, toute jeune fille ayant assisté au bal devra obligatoirement essayer la pantoufle perdue. Et voici le grand chancelier en personne pour contrôler l'essayage.
C'est ma pantoufle, je la reconnais.
Moi aussi je la reconnais. C'est ma pantoufle.
Les deux jojotes avec des grimaces, des simagrées, des contorsions tentent d'introduire leurs grands pieds dans la pantoufle de verre. Bien sûr, elles n'y parviennent pas.
Aïe! Ouille!
Mademoiselle, à part les doigts de pied, vous n'entrerez rien d'autre dans cette minuscule pantoufle. C'est une question de pointure, mademoiselle.
C'est exactement ma pointure. Essayons encore. J'avais une crampe.
C'est à moi.
Pardonnez-leur leur impatience, monsieur le grand chancelier. Mais elles sont tellement timides, tellement émues.
Mais c'est la faute de ce valet de pied, incapable de la mettre correctement.
Mais mademoiselle, vous ne pourrez jamais marcher avec. Encore moins danser.
Allons, essayons encore. C'est la chance de votre vie, mes chéris.
La scène se passe dans le grand salon de la maison. Mais tout en haut de la tour, Cendrillon sanglote dans sa mansarde. Par la fenêtre ouverte, ses amis oisillons sont entrés pour essayer de consoler la jeune fille prisonnière. Et pendant ce temps, Jacques et Gus, avec mille et une ruses, ont trompé la vigilance de Lucifer. Ils tentent de dérober la clé dans la poche de la marâtre pour délivrer Cendrillon avant qu'il ne soit trop tard, avant que le majordome ne soit reparti sans espoir de retrouver la propriétaire de la pantoufle de verre. Enfin, Jacques parvient à voler la clé. Gus, qui transpire à grosses gouttes sous l'effort, la traîne jusqu'au passage secret.
Je suis vannée, hein. Oh, j'en peux plus. Oh, j'ai les moustaches à tordre.
Allons, encore un effort, mon gros. Zuc, zuc. Voilà, je cours prévenir Cendrillon. Il n'y a plus un instant à perdre.
Quand je vois ces milliers de marches à grimper, moi. Zuc, avec cette énorme clé. Ah, je n'y ai pas de coupé. Ouf. Hey, encore une marche. Et encore une.
Zut, Cendrillon, ça y est, on a la clé.
Hélas, vous ne pourrez jamais atteindre la serrure. Vous êtes trop petits, mes chers amis souriceaux.
J'ai la clé, vite, Lucifer est avec nous.
Cette fois-ci, je te mange, toi et ton copain.
fait. Pato. Seul Pato pourra mettre ce chat en fuite.
Allez les prévenir, à tire d'aile.
Pato, Pato, réveille-toi. Lucifer est prêt à dévorer Jacques et Gus.
Dévorer Jacques et Gus, cette fois j'en fais du pâté.
Et tandis que Gus et Jacques glissent la clé sous la porte de Cendrillon, le grand chancelier s'apprête à prendre congé. La marâtre, qui a perdu tout espoir de marier l'une de ses filles au jeune prince, tente alors de briser cette maudite pantoufle de verre. Elle fait un croc en jambe au malheureux valet. La pantoufle vole dans les airs. Le grand chancelier, dans un sursaut acrobatique, la rattrape au vol.
Oh, je suis navrée, cela aurait pu être un accident stupide. Vous ne vous êtes pas fait mal, au moins.
Tout va bien. Un fâcheux accident, n'est-ce pas? Nous devons partir à présent. Et vous êtes les deux seules jeunes filles de la maison, je l'espère, et je présume...
Oui, oui, je n'ai que deux filles.
La marâtre ment avec une tranquille assurance en regardant le majordome du roi dans les yeux. Mais soudain, celui-ci détourne le regard. Une pauvre souillon, vêtue de haillons, est apparue près de la porte. Elle s'avance calmement au milieu du salon et défie sa marâtre. Le majordome se tait stupéfait. Qui est donc cette pauvresse?
Et moi, mère? Vous oubliez mon existence?
Que fais-tu ici?
Oh, c'est trop fort! Quelle audace!
Quelle impudence! Oser prétendre essayer la pantoufle! Oh, c'est la cuisinière,
la femme de chambre.
Approchez, jeune fille.
Non! Pas elle, jamais je m'y refuse!
Zut, zut! Oh! Elle a brisé la pantoufle!
L'horrible mégère!
Cela n'a aucune importance. Je possède la deuxième pantoufle. Si vous le permettez, je vais l'essayer.
Mademoiselle, je vous en prie, je me ferai un plaisir de... Oh, oh, mais tout cela est parfait et elle vous va à ravir.
Cendrillon a glissé son pied menu dans la deuxième pantoufle de verre. Le majordome pousse un immense soupir de soulagement. Il a bien failli avaler son monocle à la pensée de retourner bredouille au palais.
Mademoiselle, si vous voulez me suivre, le jeune prince nous attend auprès du roi, son père.
Je vous obéis, monsieur, de tout mon cœur.
Javotte et Anastasie gémirent, tapèrent du pied, hurlèrent de rage après le départ de Cendrillon. C'était bien fait pour elle, trop envieuse, trop méchante. Cendrillon arriva triomphalement au palais royal. Le prince, très ému, et le vieux roi, jubilant, l'attendaient au pied de l'escalier monumental.
Ma chère enfant, dans mes bras, oh que je suis heureux. Nous allons préparer les noces immédiatement et le premier baptême.
Père, avec votre permission, je désirerais m'entretenir d'un sujet brûlant avec ma fiancée. Je vous aime, Cendrillon.
Les rêves d'amour reflètent nos secrets désirs. Les vœux que l'on a en tête, quand vient le moment de dormir, alors
tête. Quand vient le moment de dormir, alors dans la nuit bien close, croyez en un destin fleuri et un matin d'avril.
Et le soir même, leur mariage fut célébré au palais royal. Le peuple souris était invité. Jacques et Gus étrennaient des jabots de dentelle ravissants offerts par Cendrillon. Ce fut vraiment une fête superbe, inoubliable. Au matin, le jeune prince et Cendrillon descendirent ensemble le fameux escalier monumental pour monter en carrosse et partir en voyage de noces. Mais que se passe-t-il ? Cendrillon a perdu une pantoufle de verre. Encore ? Eh oui, comme d'habitude. Et alors ? Et alors ? Le roi se précipite, ramasse la pantoufle et, tout rougissant, chausse le pied menu de Cendrillon. Elle l'embrasse sur le front pour le remercier. Le roi bredouille. « Soyez heureux et donnez-moi plein de petits-enfants pour jouer avec. » Cendrillon et le prince furent très heureux. Le roi grand-père aussi. Ils lui donnèrent beaucoup, beaucoup de petits-enfants pour jouer avec. »